Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge, avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour donner la parole à nos invités et auditeurs. La plupart des États africains ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entrée en vigueur en 1981 et le protocole de Maputo de 2005. Mais leurs dispositions sont rarement respectées, de même que l'application des lois adoptées par les États dans le monde pour la protection des femmes fait souvent défaut. Alors pourquoi, selon vous, que dire sur l'évolution des droits des femmes dans votre pays? Les lois sont-elles appliquées? Quels sont les principaux freins à l'égalité des genres? Pour en parler, nous avons deux invités. Nous avons notamment la journaliste sénégalaise Fatou Warka Samb, fondatrice de la plateforme féministe Warka TV. Bonjour Fatou, comment allez-vous?
Je vous dis, Nathalie. Bonjour à tous.
C'est un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup d'être avec nous. Fatou, on a également Zahra El Berber, qui est chef d'entreprise féministe franco-marocaine, qui a créé sa propre entreprise, Zahra and Connect. On a du mal à la joindre. Il faudrait que Zahra puisse nous communiquer un numéro de téléphone aux États-Unis. On ne parvient pas, malheureusement, à la joindre avec son numéro français. Donc, Zahra, si vous m'entendez, ce serait bien que vous puissiez donc nous communiquer un numéro de téléphone donc américain, si possible, pour que vous puissiez participer donc à cette émission. On va dans un premier temps écouter le commentaire de Sénin Dodzi Kouadio. Il est à Lomé, au Togo. On l'écoute.
Le problème est que c'est la corruption qui fait que ça ne se voit pas que ces lois sont respectées. Parce que la corruption est trop dans nos justices, dans nos commissariats. Ce qui fait que certaines personnes voient que leurs droits ne sont pas respectés. Donc, il faut que le gouvernement prenne conscience de cela et que dans nos institutions, à la justice, au commissariat, là où les femmes peuvent aller réclamer leurs droits, qu'ils ne puissent pas avoir de la corruption là-bas. Parce qu'on voit beaucoup de femmes qui se plaignent, beaucoup de femmes qui disent qu'on marche sur leurs droits. Donc, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup d'enfants aussi. C'est parce qu'il y a trop de corruption. Sinon, les hommes intègres, les hommes intelligents respectent toujours les femmes, respectent toujours les droits de leurs femmes. On doit respecter les droits de tout et chacun pour qu'on puisse vivre bien dans la société. Donc, il faut qu'on puisse combattre cette corruption pour que les droits de tout chacun soient respectés.
Voilà, donc c'était donc notre auditeur Sénin Dodzi Kouadio, hein, qui est à Lomé au Togo. Fatou Warka Samb, alors on sait qu'au Sénégal, hein, l'arsenal législatif pour la protection des femmes a été réformé, les lois existent, hein, du moins certaines, mais il a été constaté que ce qui peut faire défaut est l'application de ces lois, le respect de ces droits donc conférés à la femme. Alors pourquoi selon vous déjà, hein, par rapport aux dispositifs qui sont mis en place, quels sont selon vous les principales raisons, si vous pouviez, par exemple, nous donner des exemples?
Bon, oui, c'est vrai qu'au Sénégal, il y a beaucoup de lois ratifiées et non appliquées, et bon, parce que bon, certaines vont dire que ce ne sont pas forcément à l'adéquation avec nos valeurs socioculturelles. Donc, du coup, l'État peut prendre des engagements à l'extérieur du pays et avoir du mal à l'appliquer. Ça, c'est une chose. Il y a aussi, nous, en tout cas, ce que nous pouvons appeler le manque de volonté de la part de l'État, le manque de volonté politique pour appliquer les choses. Et que oui, nous sommes dans une société religieuse, qui il y a beaucoup de réalités culturelles qui font que les droits des femmes sont souvent considérés comme des choses qui ne sont pas assez importantes. Donc, du coup, Ils n'ont pas en quelque sorte cette prise de conscience sur les manquements qu'il y a et le non-respect de tous ces droits-là. Donc, tout ce qui fait qu'on a du mal à appliquer les engagements que l'État a pris en dehors du pays, en fait.
Alors, on rappelle que le protocole de Maputo, hein, c'est le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, hein, relatif aux droits des femmes en Afrique. Fatou Warkasamb, au niveau de certaines formes de droits, les droits de succession, bon, on sait que, bon, par exemple, la Charte africaine, on a des parts égales, hein, pour l'homme et la femme. On sait que le Sénégal a adhéré donc à cette, à ce protocole. Au niveau du travail, du droit au travail de la femme, au niveau des questions de viol, des questions de droits reproductifs, de violences domestiques, de mariage forcé, quel est l'état d'avancement au niveau de la loi nationale, hein, si vous pouvez juste citer deux ou trois petits exemples, et est-ce que ça fonctionne ou pas?
Non, mais en fait, ça ne fonctionne pas, parce qu'au niveau de la loi nationale, par exemple, on nous dit, par exemple, par rapport au droit au mariage des filles, par exemple, à l'âge de 16 ans, et pour les hommes, c'est à l'âge de 18 ans, et déjà, il y a une discrimination, mais de deux, ce n'est pas ce qu'on voit souvent sur le terrain. On voit qu'il y a dans certaines localités du pays des filles qui se marient très tôt, même avant 16 ans, et d'une façon forcée. On ne demande pas souvent si la fille est d'accord ou pas. Et par rapport aussi au protocole de Maputo, on note que ce n'est pas tout appliqué du tout, alors qu'on l'a ratifié sans réserve. Et sur les articles de publicité, par exemple, l'article qui concerne, par exemple, l'appartement médicalisé, qui est autorisé dans le cadre du protocole en cas de viol et de ou inceste, au cas la santé de la femme est en danger, mais ce n'est pas du tout appliqué aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas du tout appliquées aujourd'hui. Récemment, nous avons eu cette nouvelle loi qui criminalise le viol au Sénégal, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas carrément satisfaits de ce qui se passe, parce que oui, il y a déjà des procédures qui sont déclenchées, oui, il y a des personnes qui sont accusées comme étant des coupables, en tout cas, entre les présumés coupables, en tout cas, des viols, mais ça a duré beaucoup de temps, mais nous ne voyons pas du tout l'effet que cela fait sur ces personnes-là.
Donc, merci. Ici,
il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de lois, beaucoup de nouvelles lois, mais qui ne sont pas du tout appliquées aujourd'hui. Aussi, je peux vous citer l'exemple de la loi sur la parité. Oui, au Sénégal, on a voté cette loi-là, on a dit qu'il y a de la parité au niveau de l'Assemblée nationale et dans les autres institutions. Et ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, avec cette nouvelle législation-là, nous avons un président de l'Assemblée nationale et un vice-président de l'Assemblée nationale.
Effectivement. Alors, Fatou Warkasamb, Fatou Warkasamb, restez avec nous. On vient d'avoir Zahra El Berber. Zahra, comment allez-vous?
Bonjour, je vais très bien. Je vous remercie, et vous?
C'est un plaisir de vous avoir. Excusez-nous de ce petit contretemps. Alors, Zahra, vous êtes franco-marocaine. On va essayer de traiter un petit peu les deux pays. On sait que, par exemple, en France, l'arsenal des lois, est-il efficace, hein? On a quelques exemples. On sait qu'on n'en est pas au même niveau. Par exemple, on n'a pas d'injustice dans l'héritage. Les filles et garçons, c'est égaux. Dans les affaires également, au milieu du travail, les femmes ont le droit de travailler depuis très longtemps. Ainsi, on compare un petit peu au Maroc. Mais en ce qui concerne, hein, votre dada à vous, hein, l'accès aux postes de direction et au niveau des salaires à travail et compétences égales, on sait que ce n'est pas encore ça. Est-ce que les femmes sont obligées de faire appel à la justice comme aux USA sur ces problèmes récurrents? Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu un plan de la France brièvement?
Oui, ce sera avec plaisir, Nathalie. Alors, effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'en matière d'évolution des droits des femmes, même si j'essayais de vous faire un comparatif entre mes deux expériences en Europe et en Afrique, notamment en France et au Maroc, effectivement, vu que je suis des deux pays, donc d'origine marocaine, mais je suis née, j'ai grandi en France, on peut aujourd'hui comprendre que de toute façon, quand bien même des lois sont mises en place pour justement pallier aux freins des égalités, elles ne sont pas toujours appliquées, elles sont même rarement appliquées. Alors, je me permets simplement, avant de commencer à répondre à votre question, de quand même mettre un petit point sur votre question où vous nous dites que contrairement à l'Occident où les droits sont là depuis longtemps, aujourd'hui je me retrouve entrepreneuse, chef d'entreprise depuis une dizaine d'années parce qu'on m'y a poussé. Alors je m'explique simplement. En France, au cœur de Paris, hein, pourtant, où j'ai commencé à travailler à partir de 19 ans, j'ai vite compris que même si j'avais le même poste qu'un homme, les mêmes horaires, les mêmes responsabilités, je n'aurai jamais le même salaire que cet homme. Mmh. En France, à Paris. Effectivement, on va se retrouver dans la même situation en Afrique. En tout cas, moi, je parle pour le Maroc. Aujourd'hui, je pense que, quel que soit l'endroit, nous sommes encore loin d'avoir des droits égaux. Et justement, la complexité de l'évolution de ces droits, en tout cas pour les femmes, elle est liée, en tout cas pour le Maroc, pour répondre à votre question, à l'articulation entre la modernité et l'aspect religieux. Mmh. Notamment sur l'héritage, le mariage, le droit du travail. En espérant avoir répondu à votre question.
Oui, c'est très bien. Zahra, restez avec nous. Je reviens vers Fatou rapidement. Sur votre plateforme, Warka TV, les contenus de votre plateforme, avez-vous le sentiment de faire changer les mentalités? Et si oui, de quelle manière? En somme, qu'est-ce qui marche ou qui ne marche pas quand on s'adresse à des sociétés très conservatrices et patriarcales, hein, comme dans votre pays, le Sénégal?
Oui, bon, ce qui marche, c'est parce qu'on arrive carrément à conscientiser une bonne partie de la population. Ce qui marche, c'est qu'on parvient à passer à l'information, ce que par rapport tout à l'égard des suivantes de viols, de violences, qui savent aujourd'hui de plus en plus qu'est-ce qu'il faut faire, comment, par exemple, porter plainte, comment, quelle est l'attitude qu'il faut avoir à la suite d'un viol et ainsi de suite. Ça, c'est une des choses qui marche parce que nous avons pas mal de retours des personnes qui nous disent que nous, on ne savait pas que ça, par exemple, était un harcèlement. On ne savait pas qu'on était, par exemple, victime d'harcèlement, mais grâce à une telle vidéo, une telle contenu, nous parvenons aujourd'hui à identifier ces actes-là, ces choses-là que les gens n'ont pas forcément le droit de nous dire. Mais maintenant, ce qui ne marche pas, c'est que, oui, souvent, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre et qui sont souvent sur la défensive, qui essayent de détourner les messages que nous voulons faire passer, qui essayent d'interpréter d'une autre manière ce que nous disons. Et ça, c'est parfois difficile parce que c'est comme s'ils étaient dans le déni. Ils étaient dans le déni, ils se sont attaqués, donc du coup, ils sont peut-être à modifier tout ce que nous disons. Mais aujourd'hui aussi, de plus en plus, il y a d'autres initiatives aussi de ce genre qui viennent. Et ça montre qu'il y a le besoin et que oui, la population, en tout cas d'une part, sont de plus en plus conscientes des inégalités.
Ok, formidable Fatou. Zahra, vous avez parlé tout à l'heure hein, du croisement entre la société moderne et la société religieuse. Hein. Le cas du Maroc, au niveau de l'héritage, au niveau du droit de succession, là on parle aussi de l'islam, hein, on sait que la femme, la fille, a moitié moins au niveau donc de l'héritage. Et moi j'ai vu une enquête qui a été faite au mois de juin dans votre pays. Mmh. Et on voit que en fait, la réforme du code de la famille n'est pas du tout quelque chose qui intéresse la population d'une manière générale. On voit que, en fait, dans cette enquête, une majorité de personnes, y compris les femmes, ne sont pas finalement pour faire des réformes à ce niveau-là. Comment vous l'expliquez ça, Zahra?
Alors, de par l'ancienneté de ce code, qui date quand même de février 2004, à la base, ce code avait été mis en place pour pouvoir justement aider à ce qu'il y ait des avancées encourageantes en matière de statut des femmes, déjà depuis 2000. Et c'est seulement en février 2004 que ce code a été mis en place. Le souci, c'est qu'en fait, cette co-responsabilité des époux, qui en tout cas aurait dû résulter de ce code et de cette loi, devait normalement permettre la disparition du concept homme-chef de famille. Puisqu'aujourd'hui, ça on peut le voir, malgré que ça ne se reflète pas sur l'héritage, la femme, parce que je rappelle quand même aujourd'hui, il y a 22% des femmes qui travaillent. Sachant que même celles qui ne travaillent pas, pour la plupart, ont quand même fait des études. Aujourd'hui, s'il y a encore cette disparité au niveau de certaines choses, notamment l'héritage, c'est simplement par rapport aux lois religieuses qui ne sont pas applicables sur les lois, en tout cas, qui sont mises en place. Aujourd'hui, il faut quand même prendre en compte, parce que ça impacte, on a quand même aujourd'hui, en tout cas, bon, ce sont les chiffres de février 2021, hein, publiés par l'UNESCO, on a 42% de femmes diplômées au Maroc dans l'ingénierie. 42%. 20% aux USA et 26% en France. c'est un peu plus du double, 14% seulement au Japon. Aujourd'hui, la femme au Maroc est instruite. Elle a évolué. Elle a sa place. Grand nombre de femmes ont des statuts aujourd'hui. Il était inconcevable d'imaginer il y a quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment, vraiment compliqué, c'est que tout ça n'est pas visible. Tout est informel. Mais pour être restée au Maroc pendant près d'un an et demi, lors de l'installation de mon call center à Casablanca, j'ai vu ce qu'on ne trouve pas sur les textes, ni dans les pourcentages, et encore moins dans les ouvrages. Merci. Il y a une grande disparité. Tout est informel.
Ouais. Merci beaucoup, Zahra Fatou. Restez avec nous. On va écouter le commentaire de Alphonse Mbouaki, qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et on revient
Alphonse
vers
vous. Alphonse Mbouaki, à votre avis, les cadres culturels africains marquent de manière profonde les relations inégalitaires entre la femme et l'homme. En principe, la tradition africaine est réputée respectueuse de la personne humaine, quel que soit son sexe. Mais en pratique, la femme est subordonnée à l'homme. Cette conception patriarcale valorise l'homme et marginalise la femme. Elle institue les relations inégalitaires entre les sexes. Certaines pratiques et coutumes justifient les rapports et rôles inégalitaires entre l'homme et la femme dans le mariage, dans la famille et dans la société. Le défi reste donc de lutter contre l'infériorité institutionnelle et juridique de la femme en combattant les coutumes et traditions rétrogradées qui entravent l'épanouissement du genre humain et l'évolution des rapports entre la femme et l'homme dans tous les domaines. Il s'agit entre autres de lutter contre les mariages précoces des filles, la dot devenue une spéculation marchande, la polygamie, les virats et toutes les pratiques coutumières dégradantes. Par ailleurs, il faut une sensibilisation pour un changement des mentalités et des représentations négatives de la femme, stéréotypes, préjugés véhiculés par les traditions orales dans les proverbes, contes, chansons.
Voilà, c'était Alphonse Mbouaki, un de nos auditeurs. Fatou Warkassamb, on revient vers vous pour parler un petit peu de l'influence des groupes religieux qui exercent leur pouvoir sur les gouvernements. Comment permettre une ouverture d'esprit entre les deux afin qu'ils accordent leur violon en ce qui concerne les droits des femmes? On sait que dans votre pays, le Sénégal, ils sont très influents. Comment faire quand la population, y compris les femmes, écoute plus volontiers un imam de quartier qu'un ministre en charge de la famille sur des questions de droit social?
Oui, moi, je pense qu'il faut communiquer davantage et avoir une volonté sincère, comme j'ai l'habitude de le dire, en réservant tout ce qui se passe, en étant conscient du fait que ces inégalités-là ne sont avantageuses pour personne, parce que nous sommes dans un état et nous sommes toutes des personnes et nous devons avoir les mêmes droits et le fait d'avoir les mêmes droits pour nous permettre d'atteindre des objectifs pour tout le monde. Et donc, il faut avoir plus de sincérité dans le discours, dans les démarches, dans les négociations. Et dire que nous ne voulons pas prendre la place des hommes, par exemple, nous ne voulons pas nous battre contre les hommes. Tout ce que nous voulons, c'est d'être protégés, d'avoir un monde plus juste et d'avoir un endroit safe, comme on a l'habitude de le dire, qui peut nous permettre de nous développer en tant que des êtres humains. Et donc, ça ne doit pas être difficile parce que je pense que si on se limite à traduire ou à interpréter d'une façon juste ce que l'islam a dit ou ce que les autres religions, en tout cas révélées, ont dit, il peut ne pas y avoir de problème. Mais même ce qu'il y a, c'est que toutes les autres cultures, toutes les autres réalités, socioculturelles qu'on ajoute dans ce que les religions révélées disent, c'est ça qui rend les choses difficiles. Et il peut noter que ces réalités culturelles-là ont été faites par des hommes qui sont dans les positions de privilégiés dans un système patriarcal et qui veulent coûte que coût garder les privilèges. Ouais. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. Mais je pense que s'ils vont avec beaucoup plus de volonté et de sincérité, ça peut peut-être changer les choses. Maintenant, nous, par exemple, nous avons une ministre de la femme et que nous avons noté récemment qu'il y a eu plusieurs cas de féminicide au Sénégal, mais dans l'État et où nos autorités étatiques sont dans le mythe, on était dans le mythe du total, il n'y a pas de réaction venant d'eux. Là, on ne sait pas ce qu'il y a à Mouti et ça, mais nous déplorons cette habitude parce qu'on voit plus de 400 pieds, plus de 400 000 à l'espace de moins de 10 mois, et sans avoir la réaction de l'État ou des autorités compétentes à Mouti, ça nous fait dire est-ce que nous-mêmes nous vivons là. Et même si les autorités
Fatou,
ne sont pas prêtes à ce sujet-là.
Fatou, merci beaucoup. Fatou, excusez-moi de vous arrêter, je voudrais revenir, on n'a plus que 5 minutes et j'ai d'autres questions, je voudrais revenir vers Zahra. Zahra, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'au Maroc, il y a 42% de femmes diplômées. En fait, je voulais vous poser la question parce qu'on dit que bon, voilà, si on arrive à autonomiser donc les femmes au niveau économique, vous avez parlé donc des femmes qui sont déjà informellement chefs de famille, et on dit souvent que quand les femmes sont ont leur autonomie, bon voilà, ça pourrait leur permettre d'acquérir pleinement leurs droits et à terme de les voir respectés. Est-ce que cela est vrai, sachant que finalement vous m'avez apporté un élément en disant que au Maroc vous avez quand même 42% de femmes diplômées qui ne sont peut-être pas pour autant autonomes. Alors expliquez-nous ça un petit peu.
Alors effectivement, aujourd'hui on constate que ce chiffre d'ailleurs continue à évoluer dans le bon sens, puisqu'il continue d'être de plus en plus élevé, mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura une évolution dans notre thématique d'aujourd'hui, dans le sens où le problème ne vient pas du fait que les gens soient cultivés et instruits. Le problème est beaucoup plus profond, étant donné qu'il s'agit des valeurs, des traditions, de tout ce qui va toucher au cercle familial. Et d'ailleurs aujourd'hui, en tout cas en matière de droit pour la femme au Maroc, il y a quand même de belles prérogatives, Aujourd'hui, la demande de divorce, par exemple, peut être par la femme. L'abolition de la tutelle sur la femme majeure, aujourd'hui, ce sont des grands pas qui ont été faits. Et d'ailleurs, même pour le droit à l'héritage, les petits-enfants qui peuvent désormais, du côté de la fille, hériter du grand-père maternel. Chose qui n'existait absolument pas il y a quelques années en arrière. Mais en réalité, ce qui fait que la femme restera quand même quelque part sous l'aile de la gente masculine, c'est tout simplement cette peur de l'inconnu, déjà, et également le fait qu'aujourd'hui, on ne pousse pas les personnes à l'indépendance, parce que justement, cette indépendance, si toutes ces femmes, tous ces intellectuels, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, franchissaient le pas, il y aurait un soulèvement mais inimaginable. Mais sachez que, comme je vous le dis tout à l'heure, pas mal de choses sont informelles. Aujourd'hui, au Maroc, il y a énormément de femmes qui sont non seulement indépendantes, complètement autonomes, et loin de tout ce qu'on est en train de citer depuis tout à l'heure. J'ai même l'impression, en écoutant Fatou, qu'on ne parle pas du même Sénégal. Moi, le Sénégal que je connais, où je suis allée pas plus tard qu'en septembre, c'est un Sénégal avec des femmes fortes, des femmes de la diaspora, mon Dieu, ça fait vraiment plaisir de les rencontrer, parce que on voit qu'elles ont une détermination hors norme, et ça vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux au Sénégal, notamment à Dakar et à Sali Mbour, où on est en train de mettre en place certaines choses. Mais vraiment, tout va dépendre, après on n'a peut-être pas le même public, je pense qu'on n'a peut-être pas le même public avec Fatou, mais je vous assure que tout dépend des lieux où on va mettre les pieds. C'est vraiment il y a de très grosses marges, même parfois dans la même ville.
Absolument. Et tout ça, c'est la question de la culture, Zahra El Berber. Je vais avoir beaucoup de mal à vous laisser dire le mot de la fin, Fatou ou Arka Sambe. Mais dans tous les cas, je voulais préciser, moi, que Fatou est justement l'une de ces femmes que vous venez de citer, Zahra El Berber. Fatou ou Arka Sambe, c'est une jeune femme très très forte au Sénégal et réputée pour ce qu'elle fait. Merci beaucoup à toutes les deux. Je voudrais simplement citer, avant qu'on se quitte, Mamadou Falilou Seck qui a dit « Le protocole de Maputo est un arsenal de recommandations conférant tous les droits à la femme africaine ». Il fait un petit rappel. Et puis Jonas Sipadi, il a dit « Dans notre pays, il est à Kinshasa, les lois ne sont pas appliquées. Les femmes subissent toujours toutes les formes de discrimination au quotidien ». Un grand merci à vous deux, un grand merci à nos auditeurs. Merci également à Fatou Kalala, à la production. Restez avec nous à l'écoute de nos émissions sur VOA Afrique. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Bonne soirée et bon courage.